cet épisode de la vie de Jésus qui est mal reçu dans sa région, en Galilée, peut passer pour nous pour un récit une anecdotique, purement biographique. Nous apprenons que Jésus était mal aimé à Nazareth, la ville où il a grandi, voilà tout. Et puis on passe à l'histoire suivante. Et puis comme nous sommes Girondins et pas Galiléens, qu'en plus nous aimons bien Jésus, on peut se demander ce que cette histoire peut nous apporter. Et surtout en quoi elle nous concerne. Une simple observation va répondre à cette question. Parce que ce que je vois dans ce passage, ce sont des gens proches de Jésus. Des gens qu'ils connaissent bien. Certains même l'ont peut-être fait sauter sur leurs genoux, vous voyez, quand il était petit. Des gens qui entendent sa prédication, qui sont habitués au son de sa voix, qui le connaissent, mais qui ne reçoivent rien de lui. Jésus ne leur apporte rien. C'est-à-dire que Jésus ne parviendra pas à changer la vie de ses concitoyens, de ses proches, voisins, familles, amis. Il ne fera là aucun miracle, nous dit Marc. Certes, chez Luc, tous disaient sa gloire, tous s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Mais en quoi cela changeait-il leur vie? On peut se le demander. Jésus ne parviendra pas à faire naître de nouveau ses compatriotes galiléens. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de venir avec moi, d'entrer avec moi dans une zone d'inconfort. Un moment pas super cool à vivre. Mettons-nous simplement à la place de ces gens de Nazareth, de ces proches de Jésus. D'ailleurs, ça ne devrait pas être très difficile à faire, puisque pour nombre d'entre nous, nous sommes nés dans l'Église. Nous y vivons depuis si longtemps que ça peut revenir au même qu'une naissance dans l'Église. Le Christ nous est devenu familier. Il est l'un des nôtres. Il est de notre famille. Et il y a là un grand danger pour notre foi. Cela peut paraître paradoxal, cela peut même vous choquer. Mais plus Jésus est proche, plus il faut être attentif au danger qui existe là. Combien de sermons, combien de cantiques nous ont encouragés depuis notre plus tendre enfance à faire route avec Jésus tous les jours? On n'a pas chanté celui-là, mais on aurait pu. Chaque jour, à chaque heure, « Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. » Le problème, c'est qu'on n'échappe pas au syndrome du Galiléen. Et qu'à force de demeurer, à force de nous déclarer proches de Jésus, à force de lire, de relire ses paroles, eh bien nous l'avons assimilé. Vous savez, le mot assimilé, ça veut dire rendre semblable. Semblable à qui? Ben à nous. À notre communauté, à notre groupe, à notre étiquette ecclésiale. Il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup, puisque je suis engagé dans le dialogue avec l'islam, c'est aujourd'hui la montée, face à la montée de l'islam en France, une montée d'ailleurs souvent, très souvent pacifique et religieuse, comme d'autres religions sont inscrites dans le paysage français. Mais face à cette importance de l'islam dans le pays, certains se redécouvrent chrétiens. Ils arborent des croix au cou énormes, se tatouent des symbole chrétien sur la peau, affirme qu'il est temps de remettre l'Église au centre du village. Sous-entendu, qu'il est temps de réaffirmer notre identité chrétienne face à la menace de l'étranger. Mais ces revendications identitaires, pseudo-culturelles, ont-elles quelque chose à voir avec le message et la parole du Christ ? J'en doute fort. Quand le Christ est instrumentalisé à des fins identitaires ou simplement assimilé à la communauté à laquelle je pense appartenir ou à un ensemble de dogmes, de valeurs, eh bien, le Christ ne peut faire là aucun miracle. Il passera son chemin, traversera notre groupe et s'en ira plus loin. Les Galiléens pensaient connaître Jésus comme l'un des leurs. N'est-il pas le fils de Joseph ? Le frangin et ses frangines sont là, on connaît. C'est le risque qui guette nos vies chrétiennes. Un peu comme un tableau ou un meuble de famille qu'on se transmet de génération en génération, qu'on ne voit plus. Jésus peut devenir ce Dieu domestique, bien installé dans le paysage de nos vies quotidiennes, mais en réalité être complètement ignoré et réduit au silence. Quand le Christ devient trop familier, quand il ne dérange plus, quand il devient une image sainte, pour faire référence à l'étude biblique de jeudi dernier, c'est là que la situation devient dangereuse pour la foi. On dit souvent que c'est l'absence du Christ dans une vie qui est fatale. Certes, mais le récit de Marc ce matin nous dit le contraire. Il y a une manière d'envisager la relation avec le Christ qui peut être tout aussi fatale. Avons-nous pensé à cela ? Pour que le Christ reste actif, vivant dans nos vies, il faut qu'il y réside en étranger, pas en concitoyen. Pour que notre foi reste vivante et qu'elle rende un témoignage puissant au Christ, il faut que le Christ nous surprenne, qu'il nous dérange, qu'il nous choque, qu'il nous bouscule sur nos bases, qu'il nous agace. Quand nous lisons la Bible, quelle expérience faisons-nous ? Nous contentons-nous de ranger ces belles paroles dans les bonnes cases, morales, doctrinales, qui ont été fabriquées en nous depuis notre plus tendre enfance ou depuis le temps de notre conversion ? Ou bien entendons-nous la voix de Dieu qui nous appelle à changer de vie ? Même après 20 ou 30 ans de vie chrétienne. Nous laissons-nous questionner par la parole de Dieu ou bien la recevons-nous comme une parole familière, une musique agréable, indispensable, une musique de fond qui nous permet de penser à autre chose. L'enfer pour Dante, l'enfer, ce n'était pas un lieu avec des flammes et une chaleur épouvantable, c'était un lieu glacial. Quelle magnifique intuition! Car finalement, c'est quand la foi s'engourdit, quand elle se refroidit, qu'il y a danger. Pas quand elle monte en température. Ça se discute, mais bon. C'est pour cela qu'il faut une prédication dans l'Église. Des prédications. Contrairement à ce que j'entends souvent, une bonne prédication, ce n'est pas une prédication avec laquelle on est entièrement d'accord. C'était parfait, monsieur le pasteur, ce matin. j'étais entièrement d'accord avec vous. Pas un mot de trop. Je le fais jamais, mais j'ai envie de répondre, je vous le jure. J'ai envie de répondre à ce compte-là, mon frère, ma sœur. Si c'était pour entendre ce que tu savais déjà, il fallait rester chez toi. Mais quand la parole nous bouscule, quand elle nous agace, qu'elle nous aiguillonne, quand elle nous révolte, c'est là, et seulement là, que le miracle peut se produire. Ce miracle que les gens de Nazareth n'ont pas vu, parce qu'ils avaient beaucoup trop confiance en eux, et pas assez dans la nouveauté de l'évangile, de la parole de Dieu. Et quand cette nouveauté de la parole éclate dans une vie, quelle puissance, quelle merveille, quelle joie, quelle envie de vivre soudain et de dire autour de soi ce qui vient d'arriver au-dedans de nous. Et je crois qu'il y a là le sens même de la vocation de l'Église. À la différence de la ville de Nazareth, l'Église n'a pas vocation à niveler les différences, à faire taire toute autre voix que la sienne ou que celle de la foi majoritaire, c'est-à-dire celle du credo reçu et bien transmis, auquel on ne touche pas, qu'on époussette un petit peu comme ça de temps en temps. L'Église est au contraire un lieu d'apprentissage de l'altérité. C'est douloureux l'altérité, c'est dérangeant, c'est pénible, c'est insupportable. La différence. Oui, mais c'est salutaire. La voix du Christ à Nazareth était unique, prophétique, insupportable et salutaire. Et quand elle s'est exprimée, on l'a fait taire immédiatement. Sa puissance à la fois destructrice des idées reçues et créatrice de vie nouvelle, a déchaîné la colère, le mépris, l'injure, elle a inspiré l'envie de tuer. L'Église, quand elle se met au contraire à l'écoute de l'Évangile, peut devenir ce laboratoire d'altérité, où l'on expérimente l'altérité, et dont les plus belles avancées seront celles de l'élargissement de la vision. Sa perception de l'amour de Dieu, renouvellement de son courage aussi pour défendre les humiliés, les sans-voix. On a trop souvent fait du salut une notion inerte, un dedans, un dehors, point final, un état dans lequel il fallait s'installer une fois pour toutes. T'es sauvé ? Bien, super. Et puis après, on ne sait pas, on est sauvé, et puis voilà, c'est fini, l'histoire est finie. Comme si la conversion aussi, la conversion était, surtout dans nos églises évangéliques, était un but, une arrivée. Alors qu'elle n'est qu'une ligne de départ, un commencement vers la vie nouvelle, la vie en Christ. Oui, frères et sœurs, nous sommes invités à accueillir non pas le gentil petit Jésus, mais l'étrangeté de son message pour devenir nous-mêmes des étrangers dans ce monde. Des étrangers, des résistants à l'esprit du monde, au message de paix et de bonheur que ce monde nous disent-ils. Dans l'évangile de Luc, Jésus ajoute deux exemples très parlants, tous deux tirés de l'Ancien Testament. La veuve de Sarepta, au Liban, à Saïda, et Naaman le Syrien, le Liban et la Syrie. Ce sont les pires ennemis d'Israël dans la Bible et aujourd'hui encore. Des étrangers cités en exemple de foi à des juifs bontins. Il y a de quoi agacer. Hein ? C'est en cela que le message biblique est insupportable aux oreilles de ceux qui se croient légitimes, enracinés, établis, une fois pour toutes, dans la vérité de la foi. Ce sentiment de propriétaire est insupportable aux oreilles du Christ. Il faut le combattre en nous. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous invite à vivre en étranger sur cette terre, n'est-il pas vrai? Même ce que nous pensons posséder devra être abandonné, comme le rappelle l'Ecclésiaste. Notre vie n'est que vapeur qui s'évapore. J'aime bien les pieds noirs qui disaient en revenant d'Algérie, on est revenu une main devant, une main derrière. Notre vie n'est que vapeur qui s'évapore, oui, le temps est court. Alors au lieu de passer, de ressasser des vieilles vérités sécurisantes, lançons-nous, prenons le risque d'écouter une parole là où le silence a été imposé. Prenons le risque d'un geste là où le mouvement est interdit. Prenons le risque d'une écoute là où tout le monde se bouche les oreilles, où on ne veut rien entendre. Prenons le risque d'un sourire là où la tension relationnelle recommande la prudence. Prenons le risque de la liberté, celle de penser autrement que le dogme social, politique ou théologique ou ecclésial reçu, et vivons en étranger. L'étranger a ceci de magnifique et de touchant. Il ne prend jamais rien comme un dû. Il ne réclame rien. Il sait encore s'émerveiller de la beauté du pays qu'il accueille. Pour lui, tout est grâce. Et les Galiléens, eux, exigeaient des miracles, comme il avait fait dans les villages à côté. Comme si ces miracles leur étaient dus. Bon, je ne suis pas en train de faire l'autruche sur les problèmes sociétaux qui sont liés à l'immigration, même s'il n'y a pas que des problèmes avec l'accueil des migrants, il y a aussi des joies uniques, exceptionnelles, des joies humaines et fraternelles à vivre. Et des mouvements comme le mouvement de diaconat de Bordeaux s'y emploient activement. Sœurs et frères, ce n'est pas la question politique de l'étranger que j'évoque ici, mais sa dimension spirituelle. Vivre en étranger, c'est Paul qui l'écrit aux Corinthiens. Il dit que celui qui possède soit comme ne possédant pas. L'étrangeté, c'est un état d'esprit, une disposition du cœur que seule la relation vivante avec le Christ peut fabriquer en nous. Lui ferons-nous un peu de place? Quitterons-nous un moment nos Galilées, nos Nazareths? Vous avez vu la photo de Nazareth avec l'église de l'Annonciation au milieu, tout un symbole. Nous convertirons-nous à nouveau pour vivre enfin de la parole de Jésus? C'est l'appel que j'entends dans cet évangile ce matin. Que l'Esprit-Saint nous fasse la grâce de l'accueillir dans nos cœurs. Amen.